Sur 30 secondes avant départ, vous n'oublierez pas bien sûr de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent aux Wallabies, l'équipe d'Australie de rugby à 15. C'est donc l'histoire du rugby australien. Rival séculaire des All Blacks, l'équipe néo-zélandaise, la sélection australienne compte deux titres de champion du monde, en 1991 et 1999. La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud en possédant trois. Pourtant, aujourd'hui encore, le rugby à 13 est de loin le sport le plus populaire en Australie. Les clubs sont professionnels et les stades immenses. Le rugby à 15, lui, reste très minoritaire en nombre de pratiquants. À l'école, on ne pratique que le 13. Officiellement, le rugby à 13 est pratiqué dans 38 pays, mais il n'est réellement un sport de masse que dans 4 pays, l'Australie, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les Australiens sont surnommés Wallabies, en référence au Wallaby, un marsupial qui est assez commun en Australie. Les Wallabies jouent dans les couleurs classiques de la tenue vestimentaire sportive de l'Australie, à savoir les couleurs jaunes et vertes, qui sont les couleurs du mimosa doré, la plante emblématique de la Fédération d'Australie. En Australie, on appelle Wallabies les 15istes et kangourous les 13istes. Sur cette île du bout du monde, contrairement aux autres colonies britanniques, la couronne envoya d'abord en reconnaissance ses bagnards et ses renégats, suivis par les petits soldats de l'Empire et des aventuriers de tout poil. Le premier match de rugby en Australie a lieu le 25 juillet 1839. En 1863, ils fondent le premier club de l'Université de Sydney, prolongement logique de l'esprit des All Boys des public schools qui, en Angleterre, avaient fait du rugby la vitrine de leur identité. L'Australie naît au rugby par l'intermédiaire des deux fils de l'enseignant et historien anglais Thomas Arnold, qui étudie à l'Université de Sydney. Leur père, ancien directeur du collège de la ville de rugby de 1828 à 1842 près de Leicester, avait contribué au développement de ce sport outre-Manche. Aujourd'hui encore, il est considéré comme un précurseur du sport à l'école. Le premier match joué par l'Australie face à son voisin néo-zélandais se déroule le 15 août 1903 au Sydney Cricket Ground. Les Néo-Zélandais l'emportent par 22 à 3. En 1903, le football australien ou jeu à 13 est créé et commence les hostilités avec le rugby à 15. Les écoles privées restent loyales envers le code anglais, le rugby à 15, alors que les écoles publiques adoptent le football australien, le jeu à 13. L'amateurisme, si chèrement défendu à Londres, vole en éclats. L'ambition de la nouvelle structure est énorme et à la mesure de ses moyens. Dans un pays en pleine construction, où les immigrants majoritairement irlandais connaissent la pauvreté, l'opportunité pour les meilleurs joueurs de gagner un peu d'argent grâce au jeu est une aubaine. Dès lors, la rivalité entre les deux formes de rugby cristallise un clivage social profond entre une classe moyenne protestante, très attachée aux valeurs britanniques, et une classe ouvrière catholique plus imprégnée de la culture des pionniers et pressée de s'émanciper de l'autorité de Londres. La Première Guerre mondiale a un effet dévastateur sur le développement du rugby à 15 en Australie. Avec de très nombreux joueurs engagés sur le front, les fédérations décident qu'il n'est pas patriotique de jouer au rugby à 15. Toutes les compétitions sont arrêtées en Nouvelle-Galles du Sud et au Queensland, où aucune compétition ne recommence avant 1928. Les joueurs qui veulent continuer n'ont d'autre alternative que de rejoindre les rangs du rugby à 13. Après les catastrophiques Jeux olympiques de Montréal 1976, l'Australie décide d'utiliser le sport pour redorer son blason, stratégie dont le rugby est l'un des principaux vecteurs. En 1984, l'Australie fait une tournée aux îles britanniques et irlandaises avec une jeune équipe et un nouvel entraîneur, Alan Jones. Les Wallabies de 1984 rentrent dans l'histoire car ils deviennent la première équipe australienne à réussir le Grand Chelem. Un Grand Chelem, lors d'une tournée, s'obtient quand une équipe nationale en tournée l'emporte successivement sur chacune des nations britanniques et irlandaises, à savoir Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande. Ils parviennent à battre également une solide équipe des Bavarians. La tournée est un révélateur. Elle signale l'émergence des Wallabies comme équipe de premier plan au niveau mondial. Jusqu'alors, leur seul fait d'armes remontait à une tournée remportée chez le rival All Black en 1929 et un succès de prestige en Afrique du Sud en 1953. Le jeune Mark Ella inscrit un essai lors de chaque rencontre, performance jamais réalisée. Il est resté dans les mémoires comme l'un des plus grands demi d'ouverture du siècle. D'une créativité diabolique, cet aborigène pratique alors un jeu fluide, au timing parfait. Il a une telle maîtrise du rythme qu'il transforme tous les ballons en trésors offensifs. Il devient, très jeune, capitaine et forme avec le demi de mêlée Nick Fargeons une paire de demi d'ouverture comme on n'en avait jamais plus vu depuis les Gallois Edwards et Barry John dans les années 1970. D'autres joueurs ont brillé. David Campese, Michael Linnan, Nick Fargeons et Simon Poidevin qui vont compter dans les années suivantes. Alan Jones est un pédagogue qui fait entrer le rugby dans l'ère du management. Ses graines de star, il va les bichonner comme personne avant lui. En 1987, il fait embaucher par la Fédération australienne des dizaines de consultants et de techniciens chargés d'encadrer les internationaux. Mine de rien, il développe déjà les structures de ce que deviendra le rugby professionnel. Mais le 13 juin 1987, l'Australie chutait au Concorde Oval de Sydney en demi-finale de la première Coupe du monde de rugby. Un essai de Serge Blanco au terme d'une action de légende qualifiait la France pour la finale, brisant le rêve des Wallabies de remporter la première Coupe du monde de l'histoire. Mais ce travail paiera en 1991. Sous la férule de l'entraîneur Bob Dwyer, revenu à la tête de la sélection, l'Australie est enfin sacrée champion du monde en Angleterre. Les Australiens ont failli être éliminés par les Irlandais en quart de finale. Ils battent les All Blacks en demi-finale. En finale, les Australiens l'emportent devant les Anglais 12-6. Les stars australiennes se nomment John Hills, Tim Horan, Jason Little. Le passage à l'ère professionnelle en 1995 dope le rugby australien. La création du Tri Nations, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et du Super 12, championnat qui regroupe les 12 meilleures franchises des trois nations, attire les télévisions et les sponsors. Les Australiens deviennent aussi précurseurs en matière de préparation physique. Ils ont à présent la culture de la gagne. Après cette victoire en 1991, le rugby à 15 australien connaît une période moins dorée pendant quelques années. La défense de leur titre lors de la Coupe du Monde 1995, disputée en Afrique du Sud, est une cruelle désillusion. Défaits dès le match d'ouverture contre le pays hôte, ils connaissent une autre défaite en quart de finale contre le 15 de la Rose anglaise, qui s'impose 25-22, avec notamment des points importants de Rob Andrew. C'est le plus mauvais résultat de la nation dans une épreuve de Coupe du Monde. En 1999, au pays de Galles, l'Australie est champion du monde sur le score de 35-12 contre les Français au Millennium Stadium. La majorité des points est l'œuvre de l'arrière et buteur Matt Burke. L'Australie a su imposer un jeu très structuré, basé sur le pilonnage intensif, sur une défense de fer qui n'encaisse qu'un seul essai. Déjà sacrée en 1991, l'Australie devient la première équipe à remporter deux fois le trophée William Webb Ellis et John Hills, le premier capitaine à brandir deux fois le trophée mondial. Les joueurs John Hills, Jason Little, Tim Horan et Phil Cairns participent à ces deux finales héroïques. En 2003, chez elle en Australie, l'équipe d'Angleterre remporte cette Coupe du Monde en battant les Wallabies en finale le 22 novembre 2003. L'Angleterre est couronnée champion du monde sur un drop goal réussi dans la prolongation par Johnny Wilkinson. Le score final est de 20 à 17 dans un match considéré comme un des sommets du rugby. Ce résultat paraît logique dans la mesure où entre 2000 et 2003, le 15 de la Rose anglaise a remporté les 5 matchs qu'elle a disputés contre les Australiens. En 2007, l'Australie trébuche de justesse 10 à 12 en quart de finale contre l'Angleterre. En 2011, les Australiens perdent contre les All Blacks en demi-finale 20 à 6. En 2015, ils perdent en finale contre les All Blacks. La finale fut sublime. En 2019, l'Australie s'arrête en quart de finale. Lors de la Coupe du Monde 2023 qui se déroulera en France, dans la poule C, l'Australie affrontera successivement la Géorgie le 9 septembre 2023, les Fidji le 19 septembre, le Pays de Galles le 2 septembre et enfin le Portugal le 1er octobre. Le rugby est l'un des sports les plus populaires en Australie. Les Australiens en sont tellement férus qu'ils ont décliné ce sport en différentes versions. On compte aujourd'hui 3 variations du rugby en Australie. Outre le rugby union, ou rugby à 15, et le rugby league, rugby à 13, les Australiens se passionnent pour l'Australian Football League, l'étrange cousin du rugby à 13, l'Australian Rules, dit aussi Rules, le célèbre footy, le plus populaire en Australie. Ce jeu hybride est un mélange entre le rugby, le football, dans le sens européen du terme, le volley et le handball, et tient ses origines dans le Gaelic football. Le footy est né dans l'état du Victoria au XIXe siècle et présente de grandes différences avec les deux cousins précédemment cités. Deux équipes de 18 joueurs s'affrontent sur un terrain ovale de 185 par 155 mètres. Les zones de but sont délimitées par 4 poteaux, 2 plus grand au centre et un plus petit de chaque côté. Pour marquer, il suffit de faire passer le ballon entre les poteaux et selon l'endroit et la manière, le nombre de points est différent. Les règles sont extrêmement compliquées. On peut néanmoins aller voir un match de footy au sein du célèbre stade mythique Melbourne Cricket Ground qui dispose d'une capacité de plus de 100 000 places.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.